Bonsoir à tous, à toutes, à toutes, à tous. Est-ce qu'il y a pas de Paul en elle?
Il y a
de
Paul en elle.
Witam serdecznie w Bibliotece Franciszkańskich Kapucynów na konferencji poświęconej Krakowowi Franciszkańskiemu. Je pense que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire en polonais. Pour tout vous dire, l'idée de cette conférence, en fait, c'est l'objectif, comme d'habitude, c'est Pierre Morakini qui a eu cette idée il y a presque un an. Et donc, l'idée était géniale parce qu'on a eu dans notre tête l'idée quand même de montrer Cracovie avant JMJ qui vont être pour nous quand même un grand événement en Pologne qui va se dérouler le juillet. Donc Pierre a dit, pourquoi ne pas montrer Cracovie franciscaine ici à Paris à tout le monde? Mais comment le faire? Comment trouver le conférencier? Donc on se dit, bon d'accord, on est des Capucins, donc on va chercher entre les Capucins. Donc on a lancé les recherches. Imaginez-vous par Tiarette, où on a eu un Capucin de la Pologne. Donc par Tiarette, on a trouvé un Capucin qui a travaillé à Gabon. Mais pour plus compliquer les choses, frère qui a travaillé à Gabon, maintenant, travaille pour tout dire. Quand même, il continue ses études à Rome. Donc, voilà matérialisation d'idées de Pierre Morakini, frère capucin de la Pologne, Piotr Wrotniak, qui va nous présenter maintenant Cracovie franciscaine.
Bonsoir à tous. Je ne sais pas si ça fonctionne en montant. D'accord, merci. Merci de m'avoir donné cette possibilité de rendre à Pologne, ce pays lointain et peu connu, un peu plus proche. Et le thème de cette conférence, c'est Cracovie, mais je ne prétends pas de parler de Cracovie, de toute l'histoire de la ville, mais sur un aspect franciscain. Et non pas non plus, je ne veux pas parler de toute l'histoire franciscaine, mais surtout des saints, certains saints polonais qui sont liés à Cracovie.
On va approcher un peu le micro.
Encore. Ça va mieux? Merci. Alors, on peut passer. Merci. Alors, Cracovie a été choisie comme capitale de la JMJ en juillet de cette année pour diverses raisons. Il y a des anniversaires, comme le 25e anniversaire de notre JMJ en Pologne qui s'est passé à Częstochowa. Mais il y a un autre anniversaire qui est encore plus important pour nous, qui est l'anniversaire du baptême de la Pologne. La Pologne, le prince souverain de la Pologne, qui s'appelait Mieszko le Premier, a reçu le baptême avec tout son entourage en 966. Et c'est cette date qui est considérée aussi comme étant le début de l'existence de la Pologne. Donc nous voyons bien que l'État de la Pologne, la Pologne en tant que telle et l'Église, cette histoire est toujours liée. Et on ne peut pas comprendre vraiment les Polonais et la Pologne sans la foi chrétienne, catholique. Et la Pologne reste jusqu'à aujourd'hui, je pense, un pays plus fidèle aujourd'hui à l'Église, plus chrétienne ici en Europe au moins. Voilà, 966, 1000 ans après, il y avait un anniversaire, le pape Paul VI a été invité pour venir fêter avec nous, mais le régime communiste n'a pas ne l'a pas laissé entrer. C'est pourquoi 50 ans après, plus tard, le pape François l'accepte. Et il vient, et à cette occasion, il va passer aussi à Cracovie. En plus, en cette année de la miséricorde, nous avons aussi les saints qui sont liés à la miséricorde, qui sont les saints de Cracovie, comme Sainte Faustine Kowalska et Jean-Paul II. Mais en tout cas, nous allons parler plus des saints franciscains. Comment ça s'est passé que les frères et les sœurs de la famille franciscaine sont arrivés en Pologne? Voilà. Nous voyons ces deux personnages. Ils sont, je pense, j'espère, bien connus. Il ne faut pas les présenter. Frère François, avec sa fraternité, voilà, il a fondé une fraternité qui est devenue l'ordre des frères mineurs, qui s'est répandu assez vite, assez rapidement en Europe, dans diverses villes. Et ainsi, il a eu une grande influence pour l'évangélisation de l'Europe au Moyen-Âge jusqu'à présent. Donc, ils sont arrivés, par exemple, les frères mineurs ici à Paris, encore au cours de la vie de Saint François, c'est environ 1220, c'est ça, plus ou moins. Et à Cracovie, ils sont arrivés en 1237. Donc c'était déjà après la mort, et quand Saint François était déjà saint, il était un saint à la mode, très assez populaire. Donc quand les frères sont arrivés à Cracovie, ils sont allés chez l'évêque de Cracovie, il les a accueillis, bien sûr, il leur a donné le terrain pour s'installer. Donc quand les frères sont arrivés au Moyen-Âge en 1237, Cracovie, c'était une petite ville. Elle comptait plus ou moins 3000, 5000 habitants. Nous voyons ici la colline des Wawel, où il y a cette colline, c'était déjà une ancienne forteresse depuis le 7e siècle. Là se trouve aujourd'hui la cathédrale avec les tombeaux des rois polonais, le château royal, et en bas il y a l'ancienne ville avec par exemple le marché le plus grand en Europe médiévale. Ça se trouve aussi à Cracovie. Il y avait à ce temps-là, il y avait plusieurs églises, il y avait la cathédrale, mais la Pologne avait encore besoin vraiment de beaucoup de travail d'évangélisation. Et quand ils sont arrivés, c'était à ce moment-là, la Pologne n'était pas. Le royaume de la Pologne était divisé entre les duchés, parce que c'était un temps qui s'appelait démembrement territorial, entre 12e et 13e siècle. C'est-à-dire, un roi qui s'appelait Boleslas à Bouche-Torse a divisé entre ses fils le royaume de la Pologne. Et comme ça, il y avait des princes. Et les princes qui siégeaient à Cracovie, c'était le prince souverain, le chef, on peut dire. Mais il n'était pas roi jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Voilà, donc la première fondation de l'église, du couvent des frères, des franciscains, a été faite en bois. Mais déjà 3 ou 4 ans plus tard, elle a été brûlée, elle a été détruite, cette église, le couvent, par les Tartares, un peuple qui venait de l'Asie, qui nous a envahis en ce moment. Il faut dire que l'histoire de la Pologne, c'est l'histoire des guerres, des invasions de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord. Voilà, on a souffert à cause de cela assez. Voilà. Et par la suite, il y avait une autre église qui a été fondée. On peut passer à l'autre. Et de cette église du XIIIe siècle, il ne reste plus beaucoup, mais une partie, le transept de l'église qui existe aujourd'hui, ça remonte au XIIIe siècle. Et cette église se trouve sur la rue Franciszkańska, qui était déjà en ville. Et à cet endroit, de la première fondation, les frères franciscains, dits conventuels, sont encore là. Ils ont un séminaire, ils ont une grande communauté franciscaine. Voilà. Mais cette église que nous voyons aujourd'hui a été refaite pendant plusieurs fois. Et maintenant, sa forme est de style néo-romain et néo-gothique. Nous pouvons passer. Voilà. Ça, c'est plus ou moins à l'intérieur de cette église. Que si vous êtes à Cracovie, vous êtes invité à y venir. Cardinal Wojtyła, qui habitait juste à côté. L'archevêché se trouve sur la rue Franciszkańska, juste à côté de l'église. Donc il venait presque tous les matins, quand il pouvait, et faisait le chemin de la croix dans cette église. Il priait beaucoup. C'est un saint. Dans une chapelle à côté gauche de l'église des Franciscains, il y a la chapelle des Bienheureuses Salomé, Reine et Clarisse. Nous pouvons peut-être passer. Voilà, c'est cette chapelle. Et un vitrail avec cette sainte. Bienheureuse Salomé, c'est la première sainte de la famille franciscaine en Pologne, à Cracovie. Elle représente un grand nombre de saints qui étaient liés à la cour royale. Elle était fille de Lech Ier le Blanc, prince souverain de la Pologne qui résidait à Cracovie, et princesse Grzymisława. Et elle est née en 1211, et à l'âge de 3 ans, comme à cette époque c'était normal, elle a été envoyée à la cour du royaume d'Hongrie en tant que future épouse de Coloman, fils du roi André d'Hongrie. Et Coloman était frère de Sainte Élisabeth d'Hongrie. Voilà déjà une sainte. À la cour royale, elle rencontre déjà les frères mineurs qui venaient là-bas, qui prêchait, qui l'a impressionné. Elle a été aussi touchée par l'exemple de vie de Sainte Élisabeth. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 14 ans, quand elle est déjà suffisamment prête pour aller au mariage, elle réussit à convaincre son mari à vivre avec elle en gardant sa virginité, donc comme frère et sœur. Et c'est comme ça qu'ils vivent leur mariage. Déjà, à la cour royale, elle vivait comme une clarisse, comme une moine, on peut dire, préférant plus la pénitence, la prière, le silice, que le divertissement de la cour. Et quand elle était encore à la cour, elle a pris en charge aussi une petite fille, une autre fille du prince, du roi d'Hongrie qui s'appelait Kinga. Et cette petite Kinga, qui était elle a épousé par la suite le frère de Salomé qui s'appelait Boleslas, le pudique. Il a appelé le pudique, pourquoi ? Parce que Kinga, en étant impressionnée par l'exemple de vie de Salomé, elle a aussi réussi à convaincre son mari à vivre avec elle en gardant sa virginité. C'est c'est-à-dire que c'était un mariage blanc. Il faut le comprendre aussi à la base de cette époque, de cette mentalité qui considérait la sexualité, même à l'intérieur du mariage, comme quelque chose inférieur à la réalité spirituelle, comme quelque chose impur. Donc elle voulait garder la pureté devant Dieu. Donc Kinga Cunegonde. Cunegonde, voilà. Parce que je trouvais aussi en français Kinga, mais bon, c'est Cunegonde. Elle a aussi passé sa vie en sainteté. À la fin, après la mort de son époux, elle est entrée dans le monastère qu'elle-même avait fondé, un autre monastère des Clarisses en Pologne. Elle est aussi sainte, canonisée par Saint Jean-Paul II. Voilà. Mais en retournant à Salomé, son mari est mort au cours d'une guerre. Et après, par la suite, elle est devenue la première Clarisse polonaise. Et c'est pour elle qu'on a fondé le premier monastère à Zawichost, qui a été par la suite déplacé à Skawa, qui est à 30 km de Cracovie. Voilà. Et les sœurs Clarisse aussi ont commencé à vivre d'abord à Skawa, par la suite à Cracovie, en commençant aussi à former, à évangéliser le peuple, surtout par leur prière. Je voulais dire seulement qu'elle est morte en opinion de sainteté. Sa sainteté a été confirmée aussi par nombreux miracles. Et après sa mort, les frères et les sœurs se sont disputés, bien sûr, qui aura le corps de cette sainte. Et si on comprend bien la mentalité de ces temps, on peut imaginer qu'il a vaincu cette dispute, bien sûr. L'effet est celui qu'aujourd'hui nous pouvons visiter sa tombe chez les frères. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer dans l'autre. Voilà. Les sœurs Clarisse, qui étaient d'abord à Skawa, à 30 km de Cracovie, en 1316, se sont déplacées à Cracovie parce que c'était plus en sécurité. Et elles ont construit, on a construit pour elles un monastère à côté d'une église de Saint-André, qui était église du 11e siècle, église de style roman, une des plus anciennes églises à Cracovie. Et cette église, nous pouvons visiter, elle était aussi dans l'ancienne cité, pas loin des franciscains, de style roman, mais par la suite, malheureusement, l'intérieur a été complètement changé de style baroque. Donc si vous allez aujourd'hui là-bas entrer, vous allez trouver aussi les reliques des bienheureuses Salomé. C'est l'église baroque. Voilà. Alors, les sœurs Clarisse, à travers la prière, les frères mineurs, à travers la piété populaire, à travers la prédication polonaise, à travers la direction spirituelle des élites polonaises, ont vraiment eu une grande participation dans l'évangélisation de notre peuple. Mais nous passons par la suite, dans les siècles suivants, nous savons que l'Église est passée par par les difficultés. Il y avait le temps de la grande schisme, quand il y avait deux ou bien même trois papes, c'est-à-dire un pape et deux antipapes. Et il y avait le problème du conciliarisme, il y avait le problème du hussitisme. Donc, dans toute l'Église, on ressentait déjà le besoin de la réforme. On disait, il faut de la réforme, une caput et une membris, dans la tête et dans les membres. Et c'est ainsi qu'aussi, au sein des frères mineurs, est né le mouvement de l'observance. Et ce mouvement s'est développé d'abord, plus en Italie, et par la suite s'est répandu dans divers pays en Europe. Et parmi les saints qui représentent ce mouvement de l'observance, nous avons les grands saints du XVe siècle. Un, c'est Saint Bernardin de Sienne. L'autre, c'est Saint Jean de Capistrin. Et je voudrais parler un peu de ce dernier parce que son personnage, sa personne, est liée aussi à Cracovie. Voilà. À l'époque d'or de Cracovie, au XVe siècle, le roi qui s'appelait Casimir Jagellon, le roi de la Pologne, a invité ce grand prédicateur qui s'appelait Jean de Capistrin, un prédicateur italien, qu'il était déjà fameux, et il n'a pas refusé. Il est venu en Pologne, comme aussi dans d'autres pays, et il a passé 9 mois à Cracovie, en prêchant tous les jours sur le marché, grand marché de Cracovie ou à l'église. Chaque jour, pendant 2 heures, il faisait des prédications. Il y avait des foules qui venaient pour l'écouter. Voilà. Et ces jours, même si c'était assez bref, étaient très fructueux, même pour le roi, parce qu'il a... Il a béni le mariage à la fin, il a béni le mariage du roi Casimir Jagellon, et de ce mariage est sorti par la suite le fils qui s'appelait aussi Casimir, qui est futur Saint Casimir. Mais sa prédication qui a fasciné les foules, parce que c'était une personne maigre, barbue, sans cheveux, visage ascétique, il parlait en montrant au peuple les reliques de Saint Bernardin qui étaient canonisées quelques années auparavant. Il disait, j'ai quelque chose avec moi, une chose qui va vous intéresser, une chose miraculeuse, mais je vais vous montrer à la fin. Et il commence à parler, par exemple, pendant 2 heures des 10 commandements. Mais à la fin, il dit, voilà, si vous voulez voir cette chose qui vous intéresse, alors je vous invite pour venir pour demain. Et c'est comme ça qu'il invitait ceux qui les écoutaient, ceux qui l'écoutaient. Et comme il n'y avait pas de télévision, d'Internet, c'était quelque chose qui attirait les foules, ces prédications. On pouvait aussi avoir des nouvelles du monde. Et c'est ainsi que grâce à ses prédications, il a attiré une centaine de jeunes de Cracovie pour la nouvelle fondation des frères mineurs dits observants. Et c'est ainsi qu'il a attiré ces jeunes parmi aussi les étudiants de l'université de Cracovie, qui était déjà assez développé, aussi parmi les professeurs de Cracovie, de l'université Jagellon. Et c'est ainsi qu'il a fondé la première église en Pologne des mouvements de l'observance. Et par la suite, il y avait d'autres qui se sont ajoutés avec cette centaine de jeunes. C'était le premier cardinal polonais qui s'appelle Zbigniew Oleśnicki qui a fondé la première église. C'était dans le style gothique, mais malheureusement cette église a été aussi détruite, le couvent, par au cours de l'invasion des Suédois au XVIIe siècle, ce qu'on appelle le déluge suédois. Voilà, quand les Suédois ont envahi toute la Pologne, sauf le monastère, le sanctuaire marial qui se trouve à Jasna Góra. C'était l'unique place qui a résisté. En tout cas, cette église n'existe plus et nous avons une autre église qui a été construite à côté de Wawel. Et cette église aussi a été dédiée à Saint Bernardin. Et c'est ainsi que le peuple de Cracovie a commencé à appeler les frères qui était déjà un peu différent des franciscains, de ce qu'on appelle ici cordeliers, on les appelait Bernardins, et c'est jusqu'aujourd'hui qu'on appelle cette église, ces frères de cette province, qui aujourd'hui officiellement ce ne sont plus les Bernardins, mais on les appelle comme ça. Voilà. Et par la suite, cette branche des observants a suscité aussi de nombreux saints en Pologne, comme par exemple Simon de Lipnitz, Saint Jean de Dukla, Bienheureux Ladislas de Gielniów et d'autres. Voilà, donc nous avons déjà les cordeliers, les conventuels et les observants. En 1517, en même année que Martin Luther a commencé le mouvement des réformes protestantes, le pape Léon X a institué deux branches indépendantes, on peut dire, plus ou moins, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire les conventuels et les observants. Mais ce n'était pas encore satisfaisant pour beaucoup des frères qui cherchaient encore la réforme, parce que c'était aussi un temps dans lequel on ressentait ce besoin de réformer et de retourner aussi à l'observance de la règle franciscaine comme c'était au début. Et c'est ainsi que nous avons d'autres familles qui se sont ajoutées. Ici en France, par exemple, il y a les Récollets. En Espagne, il y a les Alcantarins, merci. Et en Italie, et en l'Europe de l'Est, nous avons les frères mineurs, cette réforme qu'on appelle les réformés. Et c'est ainsi qu'en 1625, que les réformés se sont installés à Cracovie. Voilà. Nous avons une autre église franciscaine, une autre branche qui est un peu plus au nord, mais toujours au sein de cette ville. Nous n'avons pas de saints canonisés de cette famille, mais quand même jusqu'aujourd'hui, et les réformés, les Bernardins et les franciscains conventuels ont des couvents assez remplis, et des frères avec les maisons de formation, etc. Voilà, donc c'était ça. Et il y avait encore une autre réforme qui était appelée la Belle et Sainte Réforme de 1528 qui s'appelle les Capucins. Et même les Capucins sont arrivés en Pologne, comme vous pouvez voir ici. Il y avait certains souverains, certains rois polonais qui cherchaient à faire venir en Pologne cet ordre qui se développait beaucoup en Italie, aussi en France, mais les frères italiens surtout n'étaient pas trop intéressés d'aller dans ces pays froids où il n'y avait pas d'huile d'olive, il n'y avait pas de vin en dehors de vin de messe, où il faisait froid, on mangeait la nourriture assez avec le grès, et c'était comme ça. Mais nous avons un roi qui était un roi vaillant qui s'appelle Jean III, on dit Sobieski, qui était un grand guerrier, qui a reçu la permission, on peut dire, de la part du pape, qui a dit que voilà, je permets aux Capucins d'aller ouvrir les maisons à Varsovie et à Cracovie. Et les Capucins, bien sûr, ne pouvaient pas dire non à cette permission du pape. Et c'est ainsi qu'ils sont allés d'abord à Varsovie et par la suite à Cracovie. Le roi Jean III Sobieski, c'était un qui a fermé, qui a arrêté plutôt les Turcs ottomans pendant la guerre à Vienne en 1623. Parce que c'était une grande menace aussi pour l'Europe. Et voilà, en cette année, il a voulu construire d'abord une grande église, une grande basilique pour les Capucins, mais les Capucins n'ont pas accepté. Donc, il a dû changer de projet. Et le nouveau projet, ils n'ont pas toujours accepté parce que c'était toujours trop grand. Et à la fin, il a diminué, il a fait tout petit, plus petit comme église, mais les Capucins toujours disaient « ça c'est trop grand ». Et à la fin, le nonce apostolique qui était en Pologne a dit « non, mais il faut pas exagérer, il faut accepter cette église, ça c'est un fondateur ». Et c'est ainsi que la première église des Capucins se trouve à Varsovie jusqu'à aujourd'hui. Le couvent a été détruit, reconstruit. Mais ce couvent est là. Et par la suite, en 1695, ils ont trouvé un autre fondateur à Cracovie. Et cette église et le couvent contient cette partie originelle. Mais nous n'avons pas non plus des saints et des bienheureux capucins qui sont liés à Cracovie. Par contre, nous avons des bienheureux qui sont liés à Varsovie. Et c'est même aujourd'hui que nous faisons le mémoire liturgique, sauf à Paris, parce qu'à Paris, c'est la cathédrale, Notre-Dame, mais au sein de notre ordre, nous faisons mémoire des cinq frères martyrs de notre province de Varsovie. Voilà. Donc, nous avons... C'est les cordeliers, nous avons les observants, les réformés et les capucins, nous avons les clarisses. On peut voir par la dimension des églises, donc de plus grand à plus petit. Donc, les cordeliers plus grands, observants plus petits, et comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les capucins sont plus saints et les autres sont moins saints, etc. Mais c'était seulement une façon de vivre la vocation. En tout cas, maintenant je voudrais passer à laisser un peu les frères et les sœurs, et frères mineurs et les sœurs Clarisse, et passer jusqu'à au sein qui est lié au troisième ordre, l'ordre séculier. Voilà, nous avons le saint Albert, c'est le nom d'un frère, mais il s'appelait Adam Chmielowski, c'était un personnage issu d'une famille noble. Il est né 1845. C'était le temps quand la Pologne était divisée entre la Prussie, la Russie et l'Autriche. Donc, elle n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelait le royaume de la Pologne. Mais le royaume de la Pologne était totalement dépendant du tsar de la Russie. Et c'est ainsi que les Polonais se sont soulevés contre les tsars, contre les Russes. Au cours de ces soulèvements, en 1863, Adam Chmielowski, un jeune étudiant de Varsovie, a pris part et il a été gravement blessé et sa jambe a dû être amputée sans anesthésie et par la suite il marche avec une prothèse. Il a découvert son talent d'artiste parce qu'il est devenu peintre, il a été formé en Belgique, il a été formé en Allemagne, il a séjourné à Paris au quartier latin pendant un certain temps. Il était ami avec plusieurs artistes polonais, les grands peintres. Et en faisant son métier de peintre, il a découvert aussi sa relation un peu plus profonde avec Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons son tableau le plus aimé par lui, c'est Ecce Homo, qui représente Jésus. Et il disait que voilà, Jésus de ce tableau en train de dire « J'étais aimé ainsi » jusqu'à ce point. Voilà, en 1880, il décide d'entrer chez les jésuites parce qu'il découvre la vocation. Mais les jésuites le renvoient en disant qu'il est fou, qu'il avait une maladie mentale. Mais en fait, ce n'était pas une maladie mentale, mais c'était une crise de foi qu'on peut comparer avec les expériences qu'a vécu Saint Jean de la Croix, décrit dans ses livres mystiques. Et par la suite, en écoutant la prédication sur l'amour de Dieu, il s'est senti aimé, il s'est senti totalement guéri de cette crise. Et c'est comme ça qu'il découvre l'ordre séculier de Saint François. Et à ce temps, l'ordre, le tiers ordre franciscain devenait plus populaire. Encore plus tard, le pape Léon XIII considérait le tiers ordre comme étant contrepoids contre la franc-maçonnerie qui était très violente, ouvertement contre l'Église à ce moment-là. Donc, et ensuite, il faut aussi comprendre qu'à ce moment-là, il y avait des problèmes avec le premier ordre, parce que c'était aussi un moment de suppression, non, de plusieurs branches masculines. Voilà. En 1884, il s'installe à Cracovie. Cracovie qui comptait plus ou moins 70 000 habitants, dont beaucoup de pauvres. C'était beaucoup aussi d'ouvriers. À ce moment, vraiment, la pauvreté était grande dans beaucoup de villes. En 1887, chez les Capucins, il rêvait l'habit tertiaire. Il reçoit le nom de frère Albert. Et il commence à servir les pauvres encore plus. Il a découvert ces pauvres qui s'est rassemblés au cours des périodes froides dans un chauffoir de la ville. Et il est allé à vivre avec ces pauvres. Parce qu'il a vu que en étant bien habillé, bien nourri, on ne peut pas vraiment aider les pauvres. On ne peut pas exiger des pauvres de changer la vie sans être impliqué un peu dans leur situation. Il disait, pour soutenir la table qui n'a pas tous ses pieds, vous ne pouvez pas mettre encore le poids dessus. Vous devez vous pencher et le soulever d'en bas. On ne peut pas faire la morale, des admonitions misérables tout en étant bien habillé et nourri. Il faut devenir plus misérable d'un misérable afin de le soulever. Donc, il vivait de la divine providence en cherchant d'améliorer la vie de ses pauvres. Et c'est ainsi que les autres frères se sont ajoutés à lui. Ils voulaient vivre comme lui. Et c'est ainsi que la congrégation des Albertins, des frères tertiaires, que le peuple par la suite a commencé à appeler les Albertins, est née. Et cette congrégation existe jusqu'aujourd'hui, et surtout les sœurs, parce qu'il y avait aussi les femmes qui demandaient, alors tu t'occupes des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes pauvres, des prostituées, nous aussi, nous avons besoin de l'aide. Et c'est ainsi que les Albertines sont nées. Voilà, on peut passer parce que... Donc, Le frère Albert est mort en opinion de sainteté en 1916, au cours de la Grande Guerre. Et il disait, comme nous lisons ici, il faut être bon comme les pains. Il faut être comme les pains qui est sur la table pour que tout le monde, pour tout le monde, et dont chacun peut se servir et satisfaire sa faim. Un jeune prêtre de Cracovie était fasciné par ce personnage. Il a écrit même une pièce de théâtre qui s'appelle « Frère de notre Dieu ». Et c'est ce prêtre qui est devenu par la suite évêque, cardinal et pape, l'a béatifié et canonisé. Le corps du saint se trouve dans l'église Ecce Homo qui est à Cracovie, mais il n'est pas à centre-ville, mais en dehors de la ville, près de la maison générale de la congrégation des sœurs. Voilà. Pour montrer que la sainteté franciscaine touche non pas seulement les nobles ou bien les frères, mais aussi les plus simples, je voudrais vous présenter une autre personne, la bienheureuse Angèle Salava, tertiaire franciscaine, une des 10 enfants d'une famille simple habitant à la campagne près de Cracovie. Elle était une jolie fille, mais de santé fragile, très pieuse depuis son enfance. Elle pensait à consacrer sa vie à Dieu. Elle ne sentait pas l'amour de son père, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans sa famille. Elle a décidé de quitter sa famille et aller à Cracovie. Et à Cracovie, on pouvait trouver peut-être travail dans une fabrique, une usine, mais c'était difficile. Et plus facile, c'était de trouver le travail en tant que servante. Et c'est ainsi que jusqu'à presque la fin de sa vie, elle travaille. En subissant les humiliations, les persécutions, jusqu'à la fin de sa vie. À l'âge de 18 ans, sa religiosité est passée par une crise, mais suite à la mort d'une de ses sœurs, elle retourne à Dieu. Elle voulait entrer aussi dans un couvent, dans un monastère, mais elle n'avait pas assez d'argent pour être la sœur de premier cœur, chorale, comme on dit. Et elle ne voulait pas être avec les sœurs qui ne savent pas lire et écrire, parce qu'elle, justement, savait lire et écrire. Et c'est ainsi qu'elle est entrée au troisième ordre de Saint-François, est devenue tertiaire. Pendant la Grande Guerre, elle s'est engagée dans les services des blessés, elle est devenue populaire. On l'appelait Sainte Demoiselle. Voilà, tout en menant la vie très ordinaire, elle grandissait intérieurement, elle avait les dons mystiques, comme l'élocution de Jésus, les attaques de démons, comme même extérieures, un peu semblables à ce que Saint Pio de Pietrelcina avait. Il avait les fortes tentations, etc. Mais les 4 dernières années de sa vie, il passait au lit, malade de sclérose multiple, de cancer des foies et de la tuberculose. Mais sa plus grande souffrance de cette femme, c'était ne pas recevoir la communion tous les jours. Et c'est ce qu'elle désirait le plus. Donc, elle a souffert jusqu'à sa mort. Elle est morte en opinion de sainteté. Et sa sainteté a aussi été confirmée par la suite par de nombreux miracles. Donc son corps a été déposé dans la chapelle de la Passion du Seigneur, dans l'église des Franciscains à Cracovie. Et le dernier personnage que je voulais présenter, c'est un saint qui est assez fameux et connu en Pologne et dans le monde, qui est aussi lié un peu à cette ville qui s'appelle Cracovie, Saint-Maximilien Kolbe. Il est né en 1894 à Zduńska Wola, c'était le centre de la Pologne, dans une famille ouvrière, mais assez croyante, très croyante on peut dire, parce que Oui. Je vais vous montrer par la suite. Raymond, il s'appelle Raymond, il était très doué. À l'âge de 13 ans, il entre au petit séminaire des franciscains. C'était les franciscains conventuels à cette époque, ceux qui sont à Cracovie. Et, mais il allait faire cette formation, école, à Lwów. C'est une ville qui était toujours polonaise, mais aujourd'hui, actuellement, elle est en Ukraine. À l'âge de 15 ans, il commence son noviciat chez les franciscains conventuels en recevant le nom de Maximilien. Avec lui est entré dans l'ordre aussi son frère, par la suite est sorti, mais un autre frère est devenu, jusqu'à sa mort, resté franciscain. Voilà, il était Maximilien. Maximilien était un grand savant, innovateur. Il avait des projets, par exemple, il pensait que la possibilité d'aller jusqu'à la Lune, c'est une question de temps, il faut attendre. Il faisait même les projets des fusils, comment ça s'appelle ? Des fusées, c'est qu'on utilise pour l'espace. Et ces projets s'accordent bien avec ce qu'on fabrique aujourd'hui. Donc il était un peu génial. Et comme il était très doué, on l'a envoyé à Rome pour étudier. Parce qu'à cette époque, on envoyait à Rome les gens qui étaient assez intelligents. C'est pas comme aujourd'hui. On envoie gens, voilà, je parle de moi-même. Et là-bas, il est impressionné par la beauté de l'église, mais il a aussi frappé au cours d'une manifestation anticléricale faite par la franc-maçonnerie, qui est passée devant Saint-Pierre avec les slogans que voilà, le diable, le Satan va régner au Vatican, le pape se servira en tant que garde suisse, etc. Donc pour lui, c'était un choc. Il disait qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre ces abominations, pour former aussi le peuple dans la bonne voie. Et comme étant encore petit garçon, il a fait un vœu à la Vierge en disant qu'il voulait servir en tant qu'un soldat à la Vierge Marie. Et c'est ainsi qu'encore en Italie, à Rome, il fonde avec les autres la chevalerie de l'Immaculée, un mouvement qui par l'évangélisation et par la prière devait combattre aussi franc-maçonnerie. Donc ils utilisaient la médaille miraculeuse, la prière de Sainte Catherine Laboureuse, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Il a ajouté à cette prière, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, surtout pour les francs-maçons. Et c'était ça la prière au début. En 1918, il est ordonné prêtre et il rentre en Pologne. Il est affecté à Cracovie, où il devient le professeur de l'histoire de l'Église. Et il fonde là-bas les Chevaliers de l'Immaculée, un mouvement qui se répand assez vite en Pologne et par la suite aussi dans le monde. Mené par le zèle de l'évangélisation, il imprime son premier périodique intitulé « Chevaliers de l'Immaculée » avec la thématique religieuse. Nous voyons son premier titre. Et c'est par cette presse catholique qui voyait une grande lacune, surtout en Pologne qui était pauvre après la Première Guerre mondiale, il faisait tout en confiant toujours à l'Immaculée. Il faisait tout pour faire augmenter cette imprimerie, et c'est ainsi que en 1222 il va à Grodno, il fonde là-bas, il ouvre la maison d'édition et l'imprimerie. Mais le couvent est devenu trop vite tout trop petit pour son œuvre, donc il reçoit ensuite un terrain à côté de Varsovie d'un noble polonais, et il fonde la cité de l'Immaculée qu'on appelle Niepokalanów, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et il reçoit la permission de ses supérieurs pour ouvrir là-bas un couvent, recevoir les novices, les jeunes frères. Et c'est Niepokalanów est devenu, avant la Deuxième Guerre, le plus grand couvent des franciscains, parce qu'il comptait au sommet, il comptait au plus 700, environ 700 frères dans un même endroit, qui travaillaient tous dans l'imprimerie, travaillaient aussi dans les autres choses. Il voulait ouvrir aussi la radio et penser même à la télévision. Voilà, convaincu que le message évangélique doit se répandre par les moyens les plus modernes. Mais en lançant ses projets, il désire toujours d'offrir sa vie pour l'évangélisation, et c'est pourquoi il décide en 1930 d'aller au Japon en tant que missionnaire. Il découvre sa vocation missionnaire. Et au Japon aussi, il fonde ce qu'on appelle la cité de l'Immaculée, qui existe jusqu'à aujourd'hui, à Nagasaki, qui n'a pas été détruite au cours des bombardements atomiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1936, il rentre au pays et continue son œuvre qui est seulement arrêtée par l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale en septembre 1939, quand les Allemands attaquent d'abord la Pologne. Donc, au début de la guerre, il décide de renvoyer ses confrères, ses jeunes candidats, ses frères, à la maison. Il reste seul, donc par la suite il est arrêté, mais plus tard libéré. Donc il rentre à Niepokalanów, cité de l'Immaculée, et il reçoit une permission d'imprimer un numéro des Chevaliers de l'Immaculée. Et dans ce numéro, il commence à parler un peu mal de tout ce qui se passe de mauvais. Donc, il critiquait tout simplement le mal. Il prêchait la vérité. Et c'est pour cela que les Allemands le mettent dans une liste à extermination. Et c'est comme ça qu'on arrive là-bas, on ferme tout et on l'envoie au camp d'Auschwitz. Camp d'Auschwitz, qui se trouve pas loin de Cracovie, tel un nom enfer sur la terre, et il est là en tant que prisonnier politique. Dans les conditions extrêmement difficiles, il continue de soutenir les autres prisonniers là-bas, en donnant toujours, en ayant toujours la bonne parole et la consolation. Et un jour de juillet 1941, un prisonnier a réussi à échapper de ses camps, un prisonnier de son bloc. Et c'est ainsi que tout le bloc doit subir une répression. Ils les mettent sous le soleil pendant toute la journée, et à la fin, le commandant du camp décide de tuer 10 personnes au lieu de celui qui s'est échappé. Et c'est ainsi qu'il choisit. D'habitude, il choisissait les malades, les vieux, parce que c'était camp de concentration et pas d'extermination, qui se trouve pas loin de Auschwitz à Birkenau. Et voilà que quand il choisit est en train de choisir ceux qui vont aller mourir. Il choisit František Gajovnič, un jeune père de la famille, qui en entendant cette condamnation à mort, il commence à pleurer, en détresse. Et c'est ainsi que la réaction de Maximilien était tout de suite qu'il se met devant les autres. Il dit qu'il voulait « Permettez-moi d'aller à la mort à l'endroit de cet homme. » On lui demandait « Qui ?»« Je suis un prêtre catholique. » Et le commandement, bizarrement, a accepté cette proposition, parce que normalement, il devrait être tué sur la place, qui a suscité un énorme respect aussi pour Maximilien. Et c'est ainsi qu'il est envoyé dans un bloc de la mort, et avec, il est condamné à la mort des faims. Et c'est là-bas le fond, ce qu'on appelle le fond de l'enfer, parce que tout le monde est désespéré, il n'y a plus espoir de sortir, c'est lieu de ténèbres. Il continue à bien parler avec les autres en leur demandant de ne pas mourir avec la haine, mais de chercher de se réconcilier avec Dieu, de demander pardon, et il leur disait que notre vie ne finit pas ici. Et c'est ainsi que, parmi les 10, il est le dernier à mourir. On a même fait une injection pour l'achever. Et sa mort, ce n'était pas seulement pour sauver une personne. C'était comme une explosion de lumière dans la nuit obscure du camp d'Auschwitz. Cette mort est devenu le salut pour plus d'un prisonnier. Et voilà les paroles de Jésus-Christ qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà, Maximilien reste encore pour nous un grand exemple. Celui qui pouvait encore bien travailler pour l'évangélisation, qui a fait tant, qui avait Il était plein d'énergie, et il décide de mourir à la place d'un père de la famille, d'un quelqu'un, on peut dire humainement, simple. Mais il le fait poussé par le zèle évangélique. Voilà, Maximilien, c'est le dernier parmi les saints que je voulais présenter ce soir. Et je veux dire seulement que Cracovie reste franciscaine jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui sont là-bas, qui continuent à avoir une certaine influence dans l'heure de l'évangélisation en Pologne, et les saints qui sont là. J'espère que nous n'allons pas seulement écouter et admirer les saints, mais comme disait saint François d'Assise, c'est la honte pour nous, les serviteurs de Dieu, de parler seulement, de vouloir recevoir la gloire des hommes en parlant des saints, alors qu'il nous faut les imiter et entrer dans leurs pas. Et chercher à suivre, à nous lancer vraiment dans la vie de l'Évangile jusqu'à la fin, comme faisaient les saints. Je vous remercie.
C'était un panorama de toute la. Ça donne vraiment envie d'aller à Cracovie, d'aller visiter ces lieux franciscains et de prier avec ces saints franciscains. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions, parce que c'est tellement passionnant. Ou des compléments d'information
Je vous remercie d'abord pour la patience. Vous avez. C'est pas facile d'écouter quelqu'un qui parle votre belle langue, mais qui ne maîtrise pas jusqu'à la fin, mais quand même, vous êtes...
À ce titre-là, c'est un genre de capistran, en quelle langue il parlait
Il parlait en...
Cracovie.
il parlait en latin et c'était tout de suite traduit en polonais.
Ah.
Voilà. Donc 2 heures, c'est avec la traduction.
Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a combien de franciscains à Cracovie et de Clarisse aussi, hein, je dirais de la famille franciscaine. Quelle est sa présence à Cracovie et en Pologne?
Donc d'abord en Pologne, par rapport aux franciscains, il y a 10 provinces. Il y a 3 provinces des conventuels, 5 provinces des frères mineurs et 2 provinces des capucins. Donc, et à Cracovie, il y a les sièges de au moins 4 provinces franciscains. Et chaque siège a aussi la maison de formation avec les étudiants. Et dans chaque maison, je ne sais pas, il y a une trentaine, vingtaine, quarantaine des étudiants. Donc si on multiplie tout ça, ça donne un grand nombre. Les Clarisses, elles ont un seul monastère, c'est-à-dire les Clarisses. Puis il y a les Clarisses Capucines, un autre monastère. Et voilà. Et c'est ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres congrégations, les sœurs qu'on appelait avant Bernardines. Il y a beaucoup d'autres congrégations des spiritualités franciscaines. C'est basé à la troisième règle de Saint François.
Et Saint-Bertin et Albertine, on peut dire que c'est des tiers ordres réguliers?
Tiers ordres réguliers, oui, ils font partie des tiers ordres réguliers, parce que c'est une...
Mais ils ne sont pas dans la vie séculière
Non, c'est la vie consacrée.
Oui, c'est ça.
Voilà, ce sont les congrégations.
Est-ce que tu pourrais parler aussi comment les franciscains, la famille franciscaine, travaillent aujourd'hui pas mal avec les jeunes? On aurait pu parler de Honora Kosminski, pas seulement du ministère caché au confessionnal, mais de la fondation de ces 26 instituts séculiers qui ont travaillé dans le secret, mais de façon efficace, et puis aussi de l'œuvre, par exemple, de Sacrochim, où il y a pour ceux qui luttent contre la boisson, etc. Il est toujours très actif.
D'accord. Merci. Ça... Alors, je n'ai pas parlé des bienheureux Honorat Kuzminski parce que il n'était pas trop lié à Cracovie, mais c'est tout un sujet à développer. Bon, les Capucins travaillent beaucoup avec le jeune, on organise différents rencontres qui durent par exemple une semaine ou 5 jours, qui regroupent par exemple, c'est une fois par an, 800, 900, 1000 jeunes qui restent avec nous. Ça, c'est une des façons de travailler. Mais il y a plusieurs groupes, mouvements de jeunes dans nos couvents. Les franciscains, pour eux, ils ont aussi ces rencontres, etc. Les capucins à Cracovie travaillent beaucoup aussi avec les pauvres, avec les SDF. Ils ont une cuisine pour les pauvres. Ils ont toute une organisation. Pour cela, ils travaillent aussi ensemble avec les Albertines et ils travaillent avec les autres sœurs. Pour Honorat Kosminski, c'est un bienheureux de la province de Varsovie aujourd'hui, qui a été béatifié par Jean-Paul II en 1988, qui a vécu à cheval entre le 19e et 20e siècle. Il est mort en même année que Saint Albert, 1916. Et il a travaillé... Voilà, c'était un jeune d'abord, un peu de son histoire. Il s'est converti parce qu'il était vraiment... Il ne voulait pas être croyant, mais il s'est converti. Par la suite, il est entré chez le Capucin à Varsovie. il a commencé à travailler là-bas, mais c'était un moment de suppression aussi en Pologne, suppression de couvents. Et c'est ainsi qu'en Pologne, le royaume de la Pologne qui dépendait de la Russie, sont restés seulement trois et par la suite deux ou un couvent. Et tous les frères étaient regroupés dans ce couvent avec une interdiction de prêcher, de sortir, de faire, d'évangéliser les gens et de recevoir les novices. Et c'est ainsi que bienheureux Honoré, à travers la confession, il a fondé 26 congrégations, surtout féminines et aussi masculines, qui étaient les congrégations de la vie, cachée, séculière, qui vivaient dans le monde, travaillaient dans les usines, travaillaient dans les campagnes, diverses couches sociales, toujours pour aider les pauvres. Et jusqu'à aujourd'hui, il existe 16 de ces congrégations. Les autres n'existent plus. Mais ce sont les congrégations qui restent, pour la plupart, jusqu'à aujourd'hui, elles ne portent pas habit, mais ce sont les congrégations de la vie consacrée. Voilà. Donc, ça, c'est une grande influence aussi pour l'évangélisation, pour le progrès social qui s'est fait à travers l'œuvre de ses frères. Et aujourd'hui, tu as parlé encore de Capucins qui travaillent avec les alcooliques, parce qu'il y a un centre à Zakroczym qui est très connu en Pologne, qui fait les retraites, qui fait la rencontre des alcooliques, ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants, mais de caractère religieux. Ce sont souvent les membres des groupes des alcooliques anonymes qui viennent passer quelques jours et découvrent souvent leur voie vers Dieu pour être libérés. Parce que, comme vous savez, en Pologne, l'alcoolisme, c'est un problème qui touche plusieurs familles. Et c'est ainsi que les Capucins aussi aident à surmonter ces problèmes. C'est ça.
Nous avons à la bibliothèque une petite histoire du couvent réformé de Cracovie, hein, ce qu'on appelle plus souvent les réformatis. Hein. En France, on dit souvent les réformatis.
Ah, d'accord.
Nous avons ce petit livre qui est en polonais. On comprend pas, moi je ne le comprends pas, mais à la fin, vous avez la liste des gardiens depuis le XVIIe siècle. Et ce qui est extraordinaire et ce qui nous dépayse, nous, par rapport à notre histoire française, c'est qu'entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, il n'y a aucune interruption. Il y a des gardiens de 3 ans en 3 ans, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, y compris pendant la guerre de 40, y compris pendant la période communiste, il n'y a aucune interruption. Et c'est très frappant, cette différence. Alors, c'est sans doute parce que c'était Cracovie, c'était l'endroit où, sans doute, avec les Autrichiens, ça a été le moins dur pour les ordres religieux. Mais c'est frappant de voir cette absence de rupture. Chez nous, il y a toujours des ruptures. Là-bas, il n'y a aucune rupture. C'est très frappant.
Tout à fait, Cracovie faisait partie de cette partie d'Autriche, non? Donc, la suppression s'est passée d'une façon un peu différente que celle de Varsovie et du centre de la Pologne.
Oui. J'ai eu l'occasion d'aller à Cracovie pour recruter des missionnaires dans le premier ordre, surtout chez les franciscains, et nous avions de très bons missionnaires de Cracovie. Ils sont allés en Afrique ou à d'autres endroits, mais moi j'ai surtout connu ceux d'Afrique. Des très bons missionnaires franciscains, soit bernardins, soit réformatifs.
Et par rapport encore à deux missionnaires des conventuels qui sont aussi passés par Cracovie, cette année, Pape François à béatifier ou va béatifier. Non, il y a déjà béatifié, non? Les deux martyrs polonais, franciscains conventuels de Pérou. Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre.
Et tu peux peut-être dire aussi comment les capucins de Varsovie comme de Cracovie étaient aussi envoyés en Russie, en Ukraine, etc. Et comment vous êtes aujourd'hui, puisque nous, francophones, nous n'avons presque plus personne dans plusieurs pays comme missionnaires, notamment en Centrafrique, etc. Gabon. Mmh.
Alors, l'histoire de ces deux provinces, Cracovie et Varsovie, était un peu différente, parce que Cracovie n'était pas, avait plus de frères, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas perdu des frères presque du tout. C'est pourquoi, juste après la guerre, ils se sont répandus dans toute la Pologne, partie surtout l'ouest et sud. Par contre, Varsovie a souffert beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait deux communautés de fraternité qui étaient arrêtées et envoyées dans les camps de concentration. C'est pourquoi nous avons ces cinq martyrs que nous faisons mémoire aujourd'hui. Et après la guerre, ce n'était pas facile de reconstruire nos provinces et c'est pourquoi au début, on n'avait pas de mission. C'est seulement à partir des années 70-80 quand on s'est ouvert un peu plus pour la mission. Et on est allé d'abord en Amérique centrale, ensuite en Suède, je parle des capucins des provinces de Varsovie, en Suède. Et concernant encore l'Est, avant la Deuxième Guerre mondiale, les capucins étaient présents en Pologne et la Pologne avait ses territoires aussi en l'Est. Et là-bas, il y avait beaucoup de couvents, mais ces couvents étaient fermés pour la plupart. Mais certains sont seulement restés. Et il y avait certains frères qui sont restés après la Deuxième Guerre mondiale encore à l'Est. Et c'est ainsi que la présence des capucins est resté en pays que nous appelons aujourd'hui Biélorussie. Et à partir de ceux qui sont restés après la Deuxième Guerre, c'est fondé la présence. Aujourd'hui, nous avons une custodie de Biélorussie qui reçoit tous les années le nouveau candidat et est en train de grandir dans un pays où la liberté religieuse n'est pas... C'est encore difficile avec ces présidents actuels. En Ukraine, c'est la province de Cracovie qui allait aussi reprendre certains anciens couvents. Et aujourd'hui aussi, il y a la custodie et plusieurs frères ukrainiens. C'est aussi... Ce sont nos présences, les custodies qui dépendent de nos provinces. En l'an 2000, la province de Varsovie est allée au Gabon pour ouvrir la première mission de cette province en Afrique. Avant, ceux de Cracovie sont allés en Centrafrique et au Tchad. Et c'est ainsi que nous avons aussi les missions en Afrique. Et moi, je peux vous dire seulement que je fais partie des missionnaires du Gabon. Parce que depuis... De l'an 2010 jusqu'à 2014, j'étais au Gabon. Et j'ai fini cette année mes études. Et au mois d'août, je veux retourner là-bas. Ensuite, nous avons aussi les présences. Nous participons à l'évangélisation de Turquie, de Belgique. Ça, c'est solidarité personnelle. Il y a trois frères de notre province et de l'Angleterre. Donc, vraiment, pour notre provincial, ce n'est pas facile d'y visiter tous ces frères qui sont un peu répandus dans divers pays. Cracovie aussi, ils sont nombreux en Autriche, en Italie, etc. Mais par rapport au nombre de vocations, quand je suis entré au couvent en 1999, on était beaucoup plus nombreux. Mais aussi, c'était une question de démographie, que dans les écoles, il y avait plein de jeunes. Et aujourd'hui, nous voyons une grande diminution dans les écoles des jeunes, question de démographie, mais ce qui se projette aussi dans la vie religieuse. Et aussi la sécularisation qui avance petit à petit fait diminuer aussi en Pologne un peu le nombre de vocations.